Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Vous avez besoin d'un accompagnement financier pour suivre une formation qui vous est nécessaire? Retrouvez toutes les informations utiles sur le site fafcea.com.
Vos plus beaux runs avec Win. Découvrez la marque de vêtements pour la course à pied et le trail made in Italy. RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Toutes les semaines, quel que soit ton niveau, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec le futur champion d'Europe de marathon. Il est avec nous, comme toutes les semaines, Johan Durand. Salut Yo-Yo.
Salut à tous. Ah ouais, ça c'est pas survendu ça.
Bah non.
Il ne met pas la pression là, ça y est.
C'est dans 9 jours.
Ah ouais. La pression monte, exactement.
Ouais, c'est de la bonne pression, j'imagine.
Exactement. Bah, quand tu participes à des championnats d'Europe, tu veux forcément gagner.
Alors, nouvel épisode à thème aujourd'hui. On va parler prévention de blessures. Johan, la bonne conduite à adopter si on veut durer et performer en course à pied. Pour en parler avec nous, on va accueillir dans un instant Florence Morisseau, qui est kiné et responsable de la clinique du coureur. Et puis, je vous rappelle les bons plans d'ossard de l'été chaque semaine. Une tenue intégrale de running à remporter en collaboration avec la marque Win. Et surtout, je vous rappelle ce super bon plan. Vous pouvez encore participer, c'est le package marathon Nice-Cannes. Le dossard pour la course, la préparation personnalisée et la tenue qui va avec. Là, on vous régale, vraiment. Évidemment, vous allez sur nos réseaux sociaux, vous remplissez le formulaire. N'hésitez pas également à vous abonner à RMC Running sur les différentes plateformes de téléchargement, comme ça vous aurez les épisodes en exclusivité. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
Et aujourd'hui, on va parler des blessures et de comment essayer de les prévenir.
C'est ça, c'est intéressant, mais il faut faire attention, c'est vraiment que ce soit pas trop moderne.
Les principaux facteurs de risque de blessure, tout d'abord, sont déjà une mauvaise hydratation, un mauvais sommeil et une mauvaise nutrition, car c'est quand même le triptyque qui va favoriser une bonne récupération.
Il faut que tu comprennes que ton corps, c'est une voiture. Et à l'entraînement, tu consommes, tu dégrades ton muscle, ton organisme, il se vide de tout son carburant.
C'est très compliqué de définir les causes et les mécanismes de la blessure.
Voilà. Ouais, d'accord, ouais, très bien, je vois très bien, absolument, oui.
Fin d'entraînement, je vous recommanderais de faire des étirements passifs courts, même chose qu'au début, mais cette fois-ci en maintenant la position sur une intensité faible.
Ça va mieux là ! Ça va mieux, mais je peux pas tirer encore !
Aïe. Il est là, Geoffrey Charpie, hein, pour les productions sonores.
Il y a toujours du Jean du Jardin.
Hein. Ah oui, ça, il adore. J'ai bien aimé le taxi alerte générale.
La blessure, pas, c'est alerte générale,
C'est ça. On en parle donc aujourd'hui de cette prévention des blessures avec Florence Morisseau, kiné et responsable de la clinique du coureur. Salut Florence.
Bonjour à tous.
Merci d'être là, Florence. On est ravis de t'accueillir. Je précise donc que tu es donc kiné et que tu participes également à un podcast consacré à la course à pied qui s'appelle La Bande à D+. C'est animé par Nicolas Fréré. C'est tous les 15 jours et c'est plutôt sur le trail et la longue distance, Florence.
Oui, c'est ça. C'est un peu des monomaniaques de course à pied, mais orienté en sentier, on va dire.
Exactement. Et ben, on les salue en tout cas et on félicite également votre travail. Florence, est-ce que tu peux nous décrire en deux, trois mots la runneuse, la coureuse que tu es, la traileuse plutôt, parce que toi, tu es plutôt spécialiste du coup de l'ultra-distance. Hein.
C'est ça. En fait, moi, à la base, alors j'ai quasiment 50 ans bientôt, à la base, je ne suis pas une coureuse à pied, je suis une judokate et mon rapport à la course à pied, c'était lié aux catégories de poids quand j'étais jeune, ado et jeune adulte. Donc, mon souvenir de course à pied, c'est de courir avec un kawé et de manger de la glace pendant 3 jours avant les compétitions.
Ah ouais.
Et puis, en fait, à l'issue de mon diplôme de kiné, je voulais plus faire de judo. J'avais besoin de passer à autre chose. Et j'avais quand même des bonnes sensations quand je courais, quoi. Donc, je me suis dit, c'est quand même super facile à mettre en place dans un quotidien de jeune entrepreneur parce que je commençais à mon activité libérale. Mmh. Et donc, j'ai commencé à courir. J'ai rejoint un club. J'ai fait un 10, un semi, deux, trois marathons. Et puis, c'est pas que je m'ennuyais sur la route, mais je voyais que, à un moment donné, si t'as pas les gènes qu'il faut, t'es quand même un peu limité dans ta progression. Et je crois que j'étais quand même déjà bien gâtée, mais je voyais un peu de limite à mon épanouissement dans la course. Et c'est dans les années 2004, 2006, 2008 que le trail commençait vraiment à se développer. Mmh. Donc j'ai mis le pied dedans. Et c'est vrai qu'à l'époque, t'étais une fille un peu passe-partout, t'avais un temps de soutien de VMA pas dégueu, bah tu pouvais faire des belles choses. Donc il y avait pas encore cette densité de filles qui arrivent des sports de montagne ouais. et avec des grosses cylindrées, j'allais dire. Et du coup bah je me suis vraiment bien amusée, je me suis pris au jeu. Et puis bah là maintenant je suis passée plutôt dans un mode d'aventurière de la course à pied. Qui va chercher des rencontres, des émotions, des découvertes de pays, de gens, et puis qui prend plaisir à bien finir les épreuves.
Et ben voilà, un parcours complet, mais c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent chez les trailers, pro ou amateurs. D'ailleurs, Johan, c'est vrai que en course à pied sur route, il y a toujours un plafond de verre, et ouais. lorsque cette monotonie s'installe, on peut aller chercher d'autres défis basculer, sur le trail. Hein.
Exactement, on en parle souvent ici, mais c'est vrai que c'est une bascule. C'est une bascule un peu classique, hein, quand on a l'impression d'avoir fait son tour, enfin, d'avoir un peu tourné en rond, d'avoir fait ce qu'on avait à faire sur la route, les différents défis, que ce soit un ou plusieurs marathons, bah, au bout d'un moment, après, on part voir Dame Nature et on se régale autrement, pas par le côté performance, essayer de faire un chrono de moins de 3 heures, moins de 4 heures, mais par le côté d'être finisher, de courir dans la nature et de se régaler avec des paysages qui sont souvent bien différents de ce qu'on peut rencontrer sur la route. Même si sur la route, des fois, il y a des parcours, on en a assez souvent parlé avec le marathon de Niskan, mais c'est l'exemple d'une course sur route qui est
magnifique,
qui est superbe à faire.
Ah, t'as la tête levée tout le temps.
C'est ça.
Et puis quand tu connais pas Paris, le marathon de Paris aussi.
Et le marathon de Paris, exactement. Ouais.
C'est sûr. Florence, je le disais, tu es donc responsable de la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est, du coup, pour ceux qui se posent la question?
Bien sûr. En fait, la clinique du coureur, c'est une compagnie québécoise à la base qui a été créée par Blaise Dubois, qui est physiothérapeute à Québec. Et donc, c'est un organisme de formation qui fait la promotion des bonnes pratiques en termes de prévention et de traitement des pathologies des coureurs. Donc, on organise des cours en France, notamment sur toute l'Europe francophone. Alors, quand je dis Europe francophone, j'inclus Belgique, Luxembourg, Suisse. Ouais. Et puis, bah, dans les dom-toms, évidemment, parce que des fois, il y a la dure vie de l'enseignante emmène dans des territoires un petit peu reculés, comme La Réunion, Tahiti, etc.
Ça donne donc, pas envie d'y aller du tout, hein. C'est sûr que...
Du tout, hein. Il y a entre les terrains de jeu et puis le plaisir de découvrir, c'est quand même vraiment génial. Et donc on forme les professionnels de santé essentiellement. D'accord. On va dire que c'est notre avatar, les professionnels de santé qui traitent ou qui prennent en charge les pathologies du coureur. Et puis on a aussi des cours sur la planification de l'entraînement, des cours sur la course au féminin, hein, de la pratique de la jeune fille jusqu'à la pratique de la femme ménopausée entre guillemets, et puis des cours sur la nutrition qui sont donnés par Anthony Berthou. Okay. Donc tout ça c'est autour de la course à pied. Alors c'est vrai que les cours comme ceux sur l'alimentation ou sur la planification ne s'adressent plus cette fois qu'exclusivement aux professionnels de santé, mais sont ouverts aux professionnels du sport, du coaching, et puis éventuellement, pourquoi pas, au coureur qui a envie d'en savoir un petit peu plus sur sa pratique.
Bon, on vous avait prévenu, c'est l'invité idéal pour traiter ce thème de la prévention des blessures, donc Florence Morixot qui est avec nous. Ça nous concerne tous, quel que soit son niveau en course à pied, quelle que soit sa pratique, malheureusement. Ouais, c'est vrai, parce que c'est souvent un frein.
Je ne connais pas un coureur qui n'a pas eu un jour... une pathologie, une blessure ou autre qui a été freinée dans ses objectifs. Ça n'arrive pas.
Tu sais à quoi ça m'a fait penser, moi, quand on a décidé de traiter ce thème? Ça me fait toujours penser à l'épisode avec Paola Radcliffe, lorsqu'elle nous a dit « Kipchoge est le plus fort parce qu'il ne se blesse jamais ».
Ouais.
Voilà. Il arrive à organiser son travail et il n'est jamais blessé.
Non, mais il y a tout un protocole à mettre en place quand on est athlète de haut niveau pour éviter justement les blessures.
Ouais. Florence, vas-y. Ouais.
Ouais, absolument. Et puis c'est vrai que bah, par définition, la blessure va être un frein dans l'optimisation de la planification, donc quelque part dans la quête de la performance. Donc c'est vrai que l'enjeu, ce n'est pas de se blesser, mais en même temps, il y a un comme quelque chose d'ultra fin entre pousser son corps dans des limites pour le faire progresser et puis pas basculer du mauvais côté de la force.
On est toujours sur le fil du rasoir et il faut éviter de tomber du côté du précipice.
Ah, tu connais ça, Johan.
Exactement. Là, moi, je peux en parler. Ces 6 derniers mois n'ont pas été faciles. Ouais.
C'est sûr. Allons-y, Florence. Du coup, pour démarrer, question toute simple. Quelles sont les bonnes pratiques pour justement éviter la casse-blessure?
Mais en fait, quand on parle de prévention des blessures, dans la grande majorité des cas, les gens veulent des tips, veulent vraiment des trucs que tu peux acheter, que tu peux avoir comme ça, la pilule magique, le patch facile, magique, ouais, le toucher magique, etc. Ouais,
ça marche pas comme ça.
Et en fait, ce qu'il faut, ben non, ça marche pas comme ça parce que la blessure elle est toujours multifactorielle, mais il y a quand même à savoir que 80% des blessures en course à pied, et là je parle d'une pratique de masse, elle est en lien avec du trop vite, trop fort, trop tôt. Ça veut dire que, en fait, le corps s'adapte. On a une physiologie qui est incroyable, qui s'adapte aux contraintes auxquelles on l'expose. Par contre, bah, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Et si à un moment donné, bah, tu l'exposes à trop de contraintes, trop vite, trop fort et trop tôt, bah, tu vas passer du côté du mauvais côté du précipice, c'est-à-dire que tu vas te blesser. Donc, en fait, le dosage est vraiment, vraiment primordial. Et c'est vrai que dans la pratique quotidienne ou dans la pratique actuelle et la relation qu'ont les gens à la course à pied, bah, c'est pas facile parce que ils veulent tout de suite. Et puis on est dans cette culture aujourd'hui de la consommation qui fait que tu veux un nouvel iPhone, tu vas te l'acheter. Tu veux tu veux télécharger un film, tu peux l'avoir sur n'importe quelle plateforme, tu peux avoir immédiatement ce que tu recherches quasiment dans l'instant. Et bah en course à pied, mais j'allais dire même de façon globale dans le sport, il faut adapter progressivement nos structures musculo-squelettiques à la demande de ce à quoi on va l'exposer. Donc j'allais dire vraiment vraiment le facteur numéro un de la blessure, c'est une erreur d'entraînement. Et donc la meilleure des préventions, c'est quand même de planifier correctement.
Et on en a parlé, on a dédié un épisode d'ailleurs en début d'année avec Vincent Lewis sur la planification des saisons et des objectifs. Ça concerne le volume kilométrique notamment pour tous les coureurs qui nous écoutent, Johan Durand, ça veut dire que il faut adapter là aussi la charge qu'on inflige à son corps, c'est-à-dire qu'on passe pas en un mois de 3 entraînements par semaine à 6 par exemple.
Il y a tout à adapter, il y a le volume en premier lieu, mais il y a aussi l'intensité. Ça sert à rien en début de saison de travailler sur des intensités fortes, des 105-110% de votre VMA au bout de 15 jours de reprise. C'est pareil, voilà, c'est adapter, on l'a dit, voilà, de façon progressive, construire des bases solides, avoir un corps fort, avoir fait suffisamment de renforcement, avoir fait les bases foncières pour avoir un cardio et une musculature un petit peu qui va tenir la saison. Et après, derrière, vous pouvez commencer à travailler beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, les choses comme ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut courir 40, qui vaut 45 ou 10 km et qui veut courir 40 minutes, il va pas le faire en 2 mois, ça c'est sûr. Il faut vraiment lui enlever ça de la tête et lui dire que ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui va pouvoir y arriver. Mais il faut qu'il soit intelligent, et l'intelligence dans la pratique, c'est aussi, voilà, c'est à l'entraîneur de faire comprendre à l'athlète que la quantification et la progressivité est très importante. Ouais.
Florence, quelles sont les blessures les plus fréquentes que tu observes chez les runners ?
Alors ça, c'est un truc auquel on joue comme ça régulièrement. Souvent, je dis à mes collègues que j'ai en cours, je dis, si vous voulez paraître un peu devin, vous avez un coureur qui rentre dans votre cabinet, vous le regardez avec un air mystérieux et puis vous lui dites, toi, t'as mal au genou. De toute façon, c'est une chance sur deux, ce sera le genou.
Voilà, ça va, c'est facile.
Donc, toi, sur un malentendu, tu passes pour un devin. Ouais. C'est toujours très bon pour l'alliance thérapeutique.
Ouais. Ah ouais, on se dira, mais elle est vraiment compétente, elle a deviné tout de suite.
Tout de suite, c'est ça. Mais ouais, en fait, les pathologies les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelait le syndrome fémoro-patellaire, maintenant qu'on appelle douleur fémorale fémoro-patellaire. Donc c'est une douleur face antérieure du genou, et puis éventuellement peut-être plus chez le trailer aujourd'hui, mais un syndrome de la bandelette iliotibiale, appelé vulgairement le syndrome de l'essuie-glace.
Ah,
ça,
oui,
ça va être les deux pathologies de genou qu'on va voir le plus. Hein.
Ouais.
Et puis après, ça va dépendre de ce à quoi on s'expose. Si on s'expose plus à de l'intensité, on va avoir ce qu'on appelle des pathologies de charge qui vont toucher plus la partie distale du membre, donc c'est-à-dire le pied, le tendon d'Achille, type périostite, type métatarsalgie, fascite plantaire, etc. Et puis si on fait beaucoup de volume, à ce moment-là, on va avoir des pathologies de répétition qui vont être typiquement la bandelette iliotibiale. Puis après, forcément, il peut y avoir des mixtes de pathologies qui sont à la frontière entre la charge et la répétition aussi. Hein.
Est-ce que c'est lié aussi à l'équipement régulièrement? Parce que, expérience personnelle, j'ai été victime, moi, du syndrome de l'essuie-glace lorsque j'ai démarré la course à pied.
Donc, avec des mauvaises chaussures.
Ouais, vous souvenez, j'ai acheté l'espèce de bande qu'on met sur le genou avec le renfort au niveau du creux du genou. Vous voyez de ce dont je parle, j'imagine, tous les deux. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était uniquement lié aux chaussures qui étaient mauvaises et pas du tout adaptées à la foulée. Ça, c'est important, l'équipement, et c'est important aussi de bien choisir sa paire de chaussures, hein, Florence.
J'allais dire, ça reste qu'accessoire, parce que tu pourras te faire un syndrome de bandelette iliotibiale avec n'importe quelle chaussure si t'es pas progressif, de toute façon. Donc c'est pas forcément lié à ce avec quoi tu cours. C'est beaucoup plus lié à la façon dont tu le planifies.
Oh, c'est intéressant. Ça. Ouais, je suis allé trop fort en fait.
Voilà. Après, la chaussure va quand même déterminer le lieu de la blessure. C'est-à-dire que tu commences avec n'importe quelle chaussure, tu vas forcément te blesser si tu fais n'importe quoi. Par contre, si tu commences avec une chaussure extrêmement protectrice, extrêmement rigide, extrêmement qui t'isole beaucoup du sol, donc qui t'entraîne dans une biomécanique qui est pas très modératrice en termes de vitesse de force d'impact, ben tu vas plus te blesser au niveau du genou, de la hanche et du dos. Mais tu vas pas trop faire le rapport avec la chaussure parce que c'est quand même assez aligné. Okay. Par contre, si tu commences à courir avec une chaussure qui est plus proche du sol, plus, on va dire, plus minimaliste, avec qui est plus légère, plus flexible, etc. Tu te blesseras aussi si tu fais n'importe quoi. Mais là, par contre, tu vas te blesser plus au niveau du tendon d'Achille, du pied, du fascia plantaire, pourquoi pas du tibial poste, etc. Donc là, tu vas plus vite faire le rapport entre chaussure et pied, entre chaussure et blessure. Donc quelque part, on va se dire, si quelle que soit la chaussure que tu prennes, si tu planifies pas correctement ton démarrage en course à pied, tu te blesseras. Par contre, tu te blesseras pas au même endroit en fonction du type de chaussure avec lequel tu vas courir.
Ah, c'est bon ça. Ah, d'accord. C'est lié à ça, le modèle que tu choisis. Tout ce qui entoure cette chaussure de running. Comment on détecte justement les signes prémonitoires d'une blessure? À quel moment on doit s'inquiéter en fait, Florence?
C'est aussi quelque chose qui s'éduque, parce que la course à pied, j'avais un collègue, Flavio Bonnet, qui est kiné sur Paris et qui avait fait ce petit texte de blog pour la clinique où il avait dit la course à pied, c'est un sport de masochiste. Et effectivement, quelque part, en course à pied, tu vas te faire mal et te faire mal va te faire progresser quelque part. Donc, il y a toujours cette relation à la douleur qui est assez ambiguë. Parce que c'est celle qu'on va chercher pour pouvoir progresser, mais en même temps, c'est celle à laquelle il faut être à l'écoute pour détecter des premiers signes avant-coureurs de quelque chose qui est pas en train d'aller dans la bonne direction. Donc, ça demande un petit peu d'éducation, puis ça demande un petit peu de connaissance de soi, parfois un petit peu d'expérience pour se dire, là, j'ai fait la séance je me suis bien rentrée dedans, mais normalement, une séance comme ça, c'est vrai que j'ai mal à mon tendon d'Achille, mais dans 2 jours, ça devrait le faire. Versus, j'ai mal à mon tendon d'Achille, le lendemain, j'arrive pas à marcher, mon tendon, il est rouge, il est gonflé, il est édémacié. Là, clairement, c'est que j'en ai fait beaucoup trop, et là, il faut que je me repose.
Okay.
Ponctuellement. Ça veut pas dire que je me repose pendant 3 semaines, mais ça veut dire qu'il faut que je me repose ponctuellement.
Yo-Yo, tu es masochiste?
comme tous les sportifs de haut niveau, malheureusement, on n'a pas trop, c'est un peu dans notre ADN,
Non, mais toi, toi, t'as des douleurs ciblées. Toi, tu es sensible au niveau des tendons d'Achille, justement.
Ouais.
À quel moment tu te dis, alerte orange, je fais gaffe?
Quand tu as mal au réveil, le réveil c'est quand même
un bon indicateur.
Un bon indicateur. Quand le matin tu te lèves et que t'es complètement verrouillé, alors que ça soit du tendon, du genou ou d'ailleurs, c'est que quelque part il y a une inflammation et que du coup faut peut-être lever le pied et faire en sorte de peut-être s'entraîner de manière plus progressive ou faire en sorte de calmer cette douleur là. Mais pour moi le réveil est un bon indicateur parce que des fois à la course vous avez plus mal, voire plus du tout, vous échauffez. Vous marchez, puis ça passe. Mais à froid, enfin moi je me rendais vraiment compte, j'arrivais à courir, à m'entraîner normalement, je me posais dans le canapé le soir à 20h, je regardais la télé, truc, je me levais du canapé et là je me disais, ah ouais, non, là ça va pas. Au moment où quand vous vous levez, vous avez des douleurs comme ça, à froid,
tu sens qu'il y a quelque chose qui
là tu te dis,
cloche.
Il faut se soigner,
Mais t'as tout à fait raison, Yoann, et toi, nous, quand on explique aux professionnels de santé les baromètres à suivre chez leurs patients pour savoir s'ils peuvent en faire plus ou pas, ben typiquement sur le tendon d'Achille, c'est le nombre de pas avec lequel tu as besoin de te mettre en route le lendemain matin. Admettons, si tu as besoin de 10 pas pour te mettre en route, tu fais ta séance d'entraînement, etc. Le lendemain, tu as besoin de 10 pas pour te mettre en route, c'est que tu étais dans la bonne dose.
C'est si bon par ça. Contre, si tu as besoin de 14,
là, tu n'étais pas dans la bonne dose. C'est exactement ça. Non, mais c'est bon. Et après, en fonction des pathologies, il faut connaître un petit peu les baromètres. Et puis, peut-être que pour toi, Johan, 10 pas, c'est ton baromètre. Pour d'autres, ce sera 5. Et pour d'autres, ce sera peut-être 12 ou 13. Parce que là, c'est pareil. Hein, la perception de douleur et de difficulté à se mettre en route, elle est très intime.
Ouais, c'est ça.
Alors, c'est pareil. On est tous inégaux morphologiquement. Est-ce que les blessures sont aussi liées à notre morphologie? Je ne sais pas si on a les jambes arquées, si on a une tendance à se muscler plus rapidement. Est-ce que tout ça aussi entraîne des causes et des blessures différentes?
Alors, ça, c'est vraiment intéressant ce que tu poses, parce que spontanément, les gens ont tendance à dire « oui, mais je me blesse ». Mais encore une fois, il faut trouver une bonne excuse qui déculpabilise un petit peu. « Oui, mais je me blesse parce que j'ai des pieds plats. Oui, mais... »
Je me blesse parce que le coach m'a fait un mauvais plan d'entraînement.
Non, ça non.
Et c'est vrai que quand on regarde, si on veut être juste, il faut regarder ce que nous dit la littérature scientifique. Et là-dessus, quand la science, elle est non opposable, et il y a encore une revue systématique là qui va être publiée et dans laquelle Jean-François Esculier, c'est un peu le monsieur science de la clinique du coureur, a participé, puis il en a fait référence sur Twitter hier encore. La façon dont t'es fait, de toute façon, t'y peux rien. Oui. Mais la façon dont t'es fait, la façon dont tu bouges, c'est-à-dire pronation, supination, valgus du genou, rotation interne de hanche, etc., n'est pas en lien avec le fait de se blesser. Ce n'est pas des facteurs prédictifs de se blesser.
C'est bien parce que Florence, petit à petit, tu nous élimines toutes les idées reçues, en fait. Mais c'est vrai, hein, c'est l'intérêt de ce podcast, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on a plein d'a priori sur les choses et finalement, c'est pas si compliqué que ça, en fait.
Exactement. Mais ça peut être un message qui est fort à transmettre, c'est qu'on est fait pour courir et qu'on a souvent tendance à complexifier ce pourquoi on est fait en voulant essayer d'être quelque part un peu plus intelligent que notre propre évolution. Alors que finalement, on est tout à fait armé pour courir. C'est plus qu'on s'est déconditionné de ce pourquoi on est fait qui nous rend quelque part fragiles et qui fait qu'on peut pas redémarrer du jour au lendemain comme si on avait été chasseur-cueilleur la semaine dernière, quoi. Ouais. Donc il faut plus recultiver nos qualités plutôt que de se trouver des défauts qui seraient des obstacles à une pratique. Normal, quoi.
Du coup, pour toi, Florence, il n'y a pas de facteur de génétique ou autre, c'est-à-dire que, parce que moi, dans mon expérience que j'ai, tu vois, par rapport à des tonnes d'athlètes que j'ai côtoyés en équipe de France, t'avais l'impression que des fois, il y a des mecs, ils vont faire n'importe quoi dans leur vie, ils vont avoir une mauvaise hygiène de vie, ils vont sortir, ils vont boire de l'alcool, ils vont mal dormir, ils vont jouer à la console, ils vont jamais se blesser, ils vont faire du haut niveau comme n'importe qui, ils vont jamais se blesser. Et d'autres à côté de ça, qui vont avoir une vie de moine un peu, qui vont manger bio, qui vont faire attention et tout, et qui malheureusement pour eux, ils vont toujours être plus ou moins blessés, embêtés à droite, à gauche. Et des fois, moi, j'avais l'impression que, en fait, le facteur génétique faisait que, soit t'étais bon, soit tu l'étais pas, et que c'était un peu la sélection naturelle qui faisait que lui faisait du haut niveau et pas l'autre, et que quelque part, tout ce qu'on pouvait faire autour n'influençait pas la performance, quoi.
Ouais, alors je te rejoins complètement là-dessus, Yann. En fait, quand je parle que la façon dont on est fait, c'est structurellement parlant, ouais, dans le sens anatomique, dans le sens
une jambe plus courte
que l'autre, une jambe plus tôt que l'autre, ouais. etc. Tu vois. Ouais. Mais par contre, une chose est sûre, c'est d'une injustice terrible, c'est que la plus grande probabilité d'avoir une hernie discale, la plus grande probabilité d'avoir de l'arthrose du genou, la plus grande probabilité d'être moins tolérant, c'est d'avoir mal choisi tes parents. Et ça, c'est terriblement injuste, mais c'est une vérité. Et c'est vrai que quand tu fais la dichotomie entre l'athlète qui fait n'importe quoi et l'autre qui a une abnégation sans faille à mettre en place tout ce qu'il peut faire de mieux pour son avenir de sportif de haut niveau, je crois que là, très clairement, il y a dans ses capacités d'adaptation, bah, il y en a un qui a tiré le bon numéro et l'autre, malheureusement, bah, un petit peu moins. Alors, j'aurais quand même tendance à dire que celui qui a tiré le bon numéro, s'il fait vraiment n'importe quoi, à un moment donné, ça va quand
oui,
même.
Il va le payer.
En je vieillissant, suis... il va quand même prendre un coup de bâton derrière les oreilles.
Là-dessus, je suis d'accord.
Ouais. Bien sûr.
Ça marche un temps. Ça marche quand on est jeune, mais à 30 ans, on est vite rappelé à l'ordre.
Ouais. Mais juste pour prolonger la question et la remarque de Johan par rapport à son expérience perso, il n'y a pas un côté, un facteur psychologique aussi, Florence? Certains, justement, qui se posent trop de questions, qui se mettent trop de pression, etc.
Ouais, ça c'est excellent que tu relèves ça parce qu'en fait dans les facteurs qui prédisposent à la blessure, alors on en parlera peut-être après, mais le sommeil il est déterminant.
Ouais.
Et puis il y a les personnalités obsessionnelles. Et ça c'est toujours très drôle parce que je veux dire en course à pied tu peux pas faire de course à pied si t'es pas un peu obsessionnel dans l'âme quoi. Et puis si t'as pas un besoin de contrôle et puis si t'as pas des objectifs etc. Mmh. Donc ça c'est un peu les traits de caractère quand même qui ressortent chez les coureurs et quelque part bah les plus obsessionnels sont quand même plus à risque que les autres. Et donc bah forcément le côté un peu psy va jouer de façon ouais. déterminante mais de la même façon tu sais souvent on dit t'as une ligne rouge qui est ta capacité maximum à supporter de la contrainte d'un point de vue mécanique d'un point de vue charge d'entraînement. Faut aussi savoir que cette ligne rouge là, elle bouge. Et le jour où tu rencontres la femme de ta vie, tu gagnes au loto et je sais pas moi, t'as réussi un truc incroyable, ta ligne rouge elle est au taquet. Le jour où tu rentres chez toi, la maison est vide, ta femme t'a quitté et tu trouves ton fils en train de se droguer dans une chambre, bah ta ligne rouge elle est j'exagère volontairement les traits, ouais. mais elle varie aussi ouais. en fonction de comment tu te sens, comment tu vis,
le
comment
mental,
tu te reposes.
Le mental joue clairement sur la blessure. Hein. Souvent, il y a des fractures de stress liées à des trop-pleins d'émotions, que ça soit d'extérieur, tu vois, des trucs que t'emmagasines, que tu gardes dans ton corps, et du coup, bah, tu te crées des inflammations à droite, à gauche, des fractures de fatigue, des trucs qui sont liés des fois, pas forcément qu'à la pathologie de la course à pied, mais parce que t'emmagasines des énergies négatives, t'as plus de motivation, ou enfin, des fois, t'es au fond, et c'est là où tu te blesses aussi.
Ouais,
hein.
Ça change tout, évidemment.
Mmh. Absolument.
Et puis, tu as commencé à en parler, Florence, mais c'est peut-être le sujet qui revient le plus dans RMC Running quasiment toutes les semaines, c'est ce triptyque HAS, hydratation, alimentation, sommeil. Ça, évidemment, c'est la clé, quoi qu'il arrive, pour performer, pour durer en course à pied. Hein. Là, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y en a pas un qui est
faut
plus important
dodo.
Que l'autre.
Ouais, alors,
écoute la marmotte.
Moi, je l'ai compris, ça.
Ouais, c'est ça.
C'est exactement ça. Tu sais, il y a des études qui ont montré que chez des athlètes jeunes, donc quand je dis jeunes, c'est moins de 22 ans, tu vois.
Ah oui.
S'ils dorment moins de 8 heures par jour, ils augmentent leur risque de se blesser. C'est 1,7 fois plus. Donc, tu vois, il
quasiment
double
deux
quasiment
fois plus.
Leur probabilité
ah ouais,
de se blesser s'il dort moins de 8 heures par jour. Et dans les croyances aussi, c'est de se dire, c'est pas grave, j'ai pas bien dormi lundi, mardi, mercredi, je vais récupérer le week-end. Et ça, c'est pas vrai, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment 8 heures par jour, par nuit, quoi. Et puis certains auront besoin de 10 heures. Ouais. Et c'est vrai que bah, c'est pareil pour la récupération. La récupération, elle est primordiale, elle fait partie de l'entraînement, elle fait partie de la prévention. Et souvent, bah, les athlètes amateurs cherchent, et même professionnels, cherchent des moyens de récupération accélérée. Alors, on va essayer d'utiliser de l'électrothérapie, on va faire de la cryo, on va faire des bains de compression, des bains froids, des chaussettes de compression, etc. Alors, il y a plein de petites choses qui marchent, mais il faut pas en oublier le triptyque qui est quand même mange bien, dors bien et planifie bien.
Voilà, faut pas faire que dormir, Johan.
Et ça,
faut
c'est
manger, et boire.
Souvent... voilà, c'est ça. Ouais. C'est des fois, faut revenir un peu aux bases. Alors, c'est vrai que en période de compétition intense, avoir des techniques de récupération accélérées, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Mais sur le gros de la saison, les trois choses importantes, elles sont là. Et quelque part, même si tu te fais masser ou t'as des ou t'as des, je sais pas, tu fais de la presso ou plein d'autres choses, si ces trois petites, si ces trois choses du triptyque sont pas assurées, ça va pas te garantir de faire de la prévention.
Quelle importance tu donnes au travail invisible, à la PPG, au gainage, aux abdos, etc., Florence?
Moi, alors là, j'ai un énorme biais affectif.
Ah, ah ben oui.
Dans le sens où, dans le sens où je m'entraîne avec Sébastien Cornette, qui est un coach plus orienté trail et puis peut-être course à obstacles aussi, même si je sais qu'il a aussi des coureurs sur route, hein, mais qui est un fervent défenseur du moins courir pour courir mieux. Dans le sens
plus
où,
de gainage, plus de musculation en général. D'accord.
Voilà. On diminue fortement le volume au profit du renfo. Alors là, par contre, scientifiquement, on sait que faire de la muscu, ça va pas te prévenir de te blesser quand t'es débutant. Tu vois, tu prends deux groupes de débutants, deux groupes de sédentaires qui vont démarrer un programme de course à pied. Un groupe, tu vas leur donner, je sais pas, un mois de muscu et puis après un programme de course à pied. Et à l'autre, tu vas d'emblée les faire démarrer un programme de course à pied. Il n'y aura pas de différence sur la prévalence des blessures. Par contre, ce qu'on sait quand même de façon aussi assez claire, c'est que le renfo est un indispensable dans la performance. Parce qu'il va permettre une meilleure économie de course, parce qu'il va permettre des meilleures transmissions de force, etc. Après, le renfo chez des coureurs performants dans un but de prévention, bah là, c'est pas si clair que ça dans la littérature.
Okay.
Mais moi, je peux pas me résoudre à me dire que tu peux avoir tort de rendre quelqu'un plus fort.
Oui, ça c'est sûr. Bon, t'arrêtes pas le gainage, Johan. Hein.
Tu vois.
Tu continues jusqu'au 15 août.
Pour la plage, mais je le fais, c'est surtout pour après
c'est
les...
Ça, toi. C'est pour te mettre torse
sur la plage après,
ouais,
pour
c'est
les
ça,
vacances.
Ouais. Bon, c'est pas du tout
c'est
le running.
C'est pour le summer body.
Voilà, exactement.
Bon, ok. Non, mais c'est intéressant parce que on avait fait un épisode également sur la PPG, justement le travail invisible, l'important de tout travailler et de se renforcer musculairement. Et puis, ton profil me fait penser à un autre profil, une autre personne qu'on a reçue, Florence, un peu plus tôt, c'est Stéphanie Jiquel, qui est une exploratrice que tu dois certainement connaître, qui est championne de France des 24 heures, qui a fait énormément d'aventures dans sa vie, notamment ses 6 marathons en 6 jours sur 6 continents différents. Et elle qui nous disait, même si je prépare de l'ultra long, quoi qu'il arrive dans mon entraînement, et c'est Johan qui lui avait fait la réflexion, je garde des variations d'allure, c'est-à-dire que même si je prépare du long et du très long, je fais quand même des séances de VMA à bloc, je fais du court, du 400, du 500
et tout. Courir vite, hein.
C'est toujours important, Florence, pour un coureur, quel que soit l'objectif, de varier les allures pour travailler les différentes zones. Hein.
C'est primordial. C'est primordial. Alors, j'allais dire, chez les élites, quand tu vois à la vitesse où vont des Jim Wamsley ou des François Daen ou Kylian Jornet sur des ultras trail et sur les parties roulantes des ultra trail, c'est des très 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 bons en termes de vitesse.
Ça court à 17-18 heures.
Donc ça, il faut quand même exactement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut le travailler de façon très exclusive. Hein. Et puis chez le coureur moins performant, hein, le celui qui est au milieu du peloton, même celui qui est à la fin du peloton, de garder une VMA élevée va quand même te donner un champ des possibles qui va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vaste dans ta variation d'allure. Et ça va être primordial. Donc, et d'autant que passé 40 ans, tu sais que ta VMA va faire que descendre. Donc au moins essayer de la maintenir de façon à pouvoir te mettre dans des efforts intenses à certains moments de la course va être primordial. Et alors après, il y a plein de façons de le faire aussi et de le mettre de façon ludique et en rapport avec ta spécificité de course. On peut le faire chez les trailers, on va plutôt le faire en séance de PMA sur vélo ou en séance de côte, mais travailler de la biomécanique de course via un travail de vitesse, un travail d'allure, un travail de gamme, etc., ça va être primordial.
Johan, non mais c'est vrai, on en a déjà parlé, mais par exemple, on se lance dans une prépa marathon. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire, je vise telle allure au marathon, donc mes entraînements de VMA, je vais les mettre à l'allure marathon que je me suis fixé. Il faut pas du tout faire ça, en fait.
C'est... Bah après, voilà,
Le plan d'entraînement, je l'ai toujours dit, ça doit être une palette assez large avec des footings de récupération très faciles et des allures de VMA pour travailler votre vitesse, développer toutes ces capacités-là. C'est très important de pas bosser uniquement sur un secteur, ne serait-ce que pour la progression dans l'entraînement. Pour si vous voulez progresser, ben faut pas faire que du footing facile.
Ah oui.
Et faut pas faire que de la VMA, que de l'allure marathon ou que de la VMA difficile. Il faut aussi, enfin, il faut. Faut
mais même
faire.
Dans tes fractionnés, faut te rentrer dedans. Faut pas te voilà, dire parce dans, que je veux courir à cette allure, je m'arrête à cette allure.
Ouais. Alors après voilà, il y a des périodes pour le faire, il y a des périodes pour développer sa VMA, des périodes pour développer son allure marathon, des périodes pour développer sa base foncière. Il y a voilà, l'entraînement c'est un grand puzzle en gros quoi. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans l'entraînement, voilà, tout en aussi mettant du renfo, en faisant du travail de côte, en faisant du travail de musculation, en faisant des choses comme ça. C'est comme une cuisine hein, plutôt ouais. qu'un puzzle, c'est une cuisine avec plein d'ingrédients que vous mettez et faut pas faire qu'une seule pratique, ça sert à rien, ça c'est certain.
Ouais, je parce que Johan, tu me fais penser à quelque chose et je pense que tu me contrediras pas. Si on donnait comme conseil aussi aux gens qui préparent un marathon ou une autre distance un petit peu longue, c'est quand ils font de l'endurance fondamentale qu'ils courent lentement.
Exactement.
Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils s'entraînent dans une zone grise qui sert à rien, c'est-à-dire qu'ils sont pas franchement en endurance fondamentale.
Ça,
ils sont très très loin de leur VMA.
Exactement.
Et en plus, c'est une zone grise qui use, c'est une zone grise qui fatigue, c'est une zone grise qui potentiellement va lier à la blessure. Ouais, vraiment de courir lentement. Il y en a qui me disent, j'arrive pas. Je dis, mais cours, je sais pas, moi, cours avec ta femme, cours avec quelqu'un qui débute, mais c'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment un conseil avec lequel je me bats un petit peu quotidiennement parce que les gens n'acceptent pas de courir à 9 à l'heure. Mais pourquoi? Même 8, hein.
Ouais, ils disent non, mais j'ai un niveau suffisant pour faire mes footings de récup à 12 ou 13 à l'heure.
Alors moi, j'ai mon allure marathon qui est à presque 20 km/h, 19,5, et j'ai mes allures de footing, je cours à 11 km/h. Il y a des jours, je cours à 11 pour régénérer, pour vraiment me faire plaisir, je cours avec ma copine ou autre.
Tu voulais nous saper le moral, en fait? C'est ça, ton truc?
Non, c'est pour te dire que toi, ton allure marathon à 14,5, il faut que tu cours à 8. Donc, tu vas m'écouter un peu.
Ouais, d'accord. Bon, 8.
Mais c'est extrêmement puissant ce que tu dis là, Johan. Parce que les gens, ils s'imaginent que des gens comme toi ne courent jamais en dessous de 16 à l'heure. Bah.
Exactement.
Si, et c'est une séance de qualité. Quand tu fais du 11 km/h, c'est une séance de qualité.
Voilà.
C'est pas parce qu'elle est à faible allure qu'elle est pas qualitative.
Et ça fait partie du dernier point que je voulais aborder avec toi, Florence, tes solutions de récupération, optimiser la récupération. Là aussi, on est dans le sujet de la prévention des blessures parce que bien récupérer, c'est permettre aussi au corps de se régénérer et de partir au combat dès le lendemain sur une grosse séance. Quels sont tes bons conseils par rapport à la récupération?
Mais c'est vrai que de base, la récupération, ça fait partie de l'entraînement. Alors, ce qui est compliqué, c'est que souvent le coureur, il est un peu biorexique aussi. Donc, il a du mal à se passer sa sortie parce qu'il y a quelque chose qui lui demande là, sa dope. Il est en sensation de manque là et il a besoin d'avoir sa dose. Donc, accepter les journées off, accepter le fait que ne rien faire, ça peut aussi servir l'entraînement. Ça souvent c'est les gens ont du mal après un marathon de se dire je vais rester 8 jours off et ouais. En fait tu termines ton marathon, t'as eu plein de bonnes ondes, t'es sous perfusion d'endorphines là,
excité.
et t'es complètement excité et il faut que tu restes off, c'est vraiment
ou le contraire, ou tu t'es raté, t'es vexé et tu te dis je vais repartir au charbon.
Exactement. Donc ça c'est en fait ça fait partie de la planification. Donc je pense que dans la récupération vient la bonne planification quelque part. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mange et dors.
Voilà, tout simplement. C'est ça. Voilà. Puis comme ça tu vas récupérer plus facilement. Florence.
Voilà.
Florence Morisseau, merci beaucoup pour tous ces conseils. Là c'était complet. Alors là vraiment.
Merci à vous. J'ai passé un super moment.
Pour la prévention des blessures, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Mais Johan, est-ce que tu as un dernier mot sur ce thème? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Un petit conseil perso, je sais pas justement pour.
Non, mais comme elle l'a dit, voilà, moi je sais que tu vois, je bosse, je fais beaucoup de cryo, je fais beaucoup de bains froids, je fais beaucoup d'électrostimulation, je fais de la presso, je fais des massages, je fais de la récup, je fais du renfo. Mais c'est vrai que ça, ce sont des petits pourcentages Mais le plus important dans la récupération, et c'est vraiment l'alimentation, l'hydratation quand il fait chaud comme ça, derrière des séances, ouais. Quand on s'entraîne dur. J'ai calculé, l'autre jour, j'ai bu 6 litres d'eau dans ma journée de lundi tellement il faisait chaud.
Sans faire pipi.
Et en plus, je me suis rendu compte que je m'étais pas arrêté tant que ça. Et
tu vois,
donc, du coup, ça veut dire que...
Tu transpires
beaucoup. Donc voilà, le sommeil, l'hydratation et l'alimentation, c'est la base. Mmh. Et après, tous les gadgets, comme elle l'a dit... voilà, moi ça nous aide nous à haut niveau à faire passer des séances, des semaines à 160-180 km par semaine. Ouais. Mais pour un coureur lambda, il vaut d'abord qu'il privilégie ça avant d'investir dans tout ce qui peut être accessoire, quoi.
Bien dit, coach. Allez, on attaque le bon plan d'Ossard.
RMC, le bon plan d'Ossard.
Et on vous rappelle le cadeau exceptionnel dans RMC Running, ce magnifique défi qui vous attend à la rentrée. Toute notre équipe vous offre votre dossard pour le marathon mythique Nice-Cannes. C'est plus de 90% bord de mer. Là, vous allez vous régaler. Vous partez de la promenade des Anglais, vous arrivez à la Croisette. C'est quand même fantastique.
Ouais, c'est si beau que ça là-bas?
Ah, franchement, ouais. Et puis, compte tenu de la météo en 2022, il devrait faire 25 degrés. Hein. Ce sera le 30 octobre. Ouais. Là, ouais, a priori, vous aurez encore chaud. En plus de ça, on vous offre votre plan d'entraînement et votre tenue complète RMC Running en partenariat avec la marque italienne Win. Les heureux élus auront même la chance d'être accompagnés donc par Johan, évidemment. Ils vont bénéficier d'une prépa personnalisée pour atteindre leur objectif. On recherche 4 profils différents, 2 hommes, 2 femmes, 4 objectifs différents, du primo marathonien jusqu'au moins de 3 heures. Et puis un point commun, évidemment, une motivation extrême pour aller au bout de son défi. Les grands gagnants auront également la chance d'être avec nous dans les podcasts d'RMC Running un peu toutes les semaines. Ils nous tiendront informés de leur préparation. C'est vraiment un magnifique cadeau que l'on vous offre. Alors si vous voulez candidater, vous avez un lien disponible sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur le club RMC Running sur Strava. N'hésitez pas, lancez-vous. Et puis au-delà de ça, on vous rappelle que quoi qu'il arrive, dans chaque épisode de l'été, il y a une tenue complète RMC Running à gagner. Donc là aussi, vous pouvez participer. On est là, Johan, quand même. On offre des cadeaux, on est généreux.
Franchement, là, c'est pas le haut du panier. Là, c'est pas motivant, ça.
Mais est-ce que ça te met un peu de pression à toi de recruter comme ça 4 runners et de les amener au bout de leur objectif?
Bah allez, s'ils veulent progresser, ils savent à qui s'adresser. Hein.
c'est ça, tu as raison. Exactement.
Didier Deschamps de l'athlétisme.
Il est là. Oui, Florence, vas-y, je t'en prie.
Oui, en fait, ça fait écho à un film que je regardais avant qu'on prenne l'antenne, ouais. Le film de Ludo Collet, Au-delà du temps. Et quand on voit la relation qu'on peut avoir entre entraîneur et coaché, quelle que soit la performance, c'est juste un cadeau que chacun se fait quelque part.
Hein. Ah bah ça,
donc
c'est
je trouve
sûr.
Ça assez extraordinaire que vous puissiez donner cette opportunité aux auditeurs.
Eh ben c'est gentil. Écoute, merci Florence de ton soutien. Et moi j'ai la chance, justement, je vous le dis à tous, d'avoir comme coach personnel Johan Durand depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que je me régale. Et franchement, il est de très bons conseils. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça vous fait un beau défi. Pour la fin du mois d'octobre, je vous rappelle, la course, c'est le 30 octobre. Florence, une nouvelle fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es participante régulière du podcast La Bande à D+, que vous pouvez également retrouver sur les plateformes de téléchargement. Et puis, on a une tradition, évidemment, à la fin de tous les épisodes d'RMC Running. On te demande la musique que tu écoutes quand tu cours, mais comme l'ensemble des trailers et traileuses, tu n'écoutes pas de musique quand tu cours. Voilà, tu es focus sur ton parcours et sur les bruits de la nature, mais tu as quand même choisi une chanson. C'est 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Écoute. Et alors, le petit coup de gnôle pour la prévention des blessures, on est comment là?
Le moment est pile bien choisi.
C'est Geoffrey, ça.
Et c'est ça. C'est Geoffrey Charpie, notre producteur. Bravo à Julie Deroux, notre réalisatrice également. On précise que cette chanson sera ajoutée à notre playlist RMC Running sur Spotify. Donc allez-y aussi si vous voulez vous régaler et vous rappeler des souvenirs des différents moments passés en écoutant RMC Running. Merci Florence une nouvelle fois. Merci coach Durand. On te souhaite une bonne fin de préparation. Ça approche, hein, évidemment, le marathon des championnats d'Europe. Le 15 août, on vous le rappelle. Suivez Johan sur les réseaux, ce sera à Munich et ce sera fantastique. Merci Johan, merci Florence. Et ce dernier conseil, comme toutes les semaines, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent.